Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 7, 8, 9. L'esprit embrumé et fébrile, Loon laissa passer une rame en se disant que si effectivement c'était Gus, il avait dû changer à la station d'après pour le rejoindre. Et effectivement, il était là, à la deuxième rame. Loon monta. Ses vieux réflexes de policier lui avaient permis de prévoir ce qui allait se passer. Gus sortit, il glissa, demain même heure, Solneradis. Le Solneradis est un café au troisième sous-sol, où il pourrait se rendre sans être obligé de porter sa combinaison anti-rayonnement. C'était déjà ça. Pour le Conner, tant pis. Rentré chez lui, Loon dormit pratiquement 24 heures. Il lui fallut se dépêcher pour aller au café. Il se paya un X-Cab, ces taxis un peu plus chers, où on était protégé des rayonnements. Ainsi, il n'eut pas à enfiler sa combinaison. Puis, traverser vite fait la rue et descendre au moins 3. S'installer à une table, ouf, quelques minutes d'avance. Gus arriva, mais il n'était pas seul. Bonjour Loon. Bonjour Gus. Loon, je te présente Clem, qui brûlait de te connaître. Bonjour Clem. Bonjour Loon. Nous nous sommes déjà parlé, il y a un peu plus d'un an et demi, si vous vous souvenez. La liaison était évidente. Il avait affaire à l'éco-terroriste qui lui avait raconté l'histoire du cycle de Yom. Alors comme ça, vous brûliez me rencontrer en vrai. Oui. Après la transmission de l'histoire du cycle de Yom, c'est l'événement le plus important qui est arrivé dans ma vie. J'avais oublié votre propension à tout ramener au religieux. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Allez-y. Est-ce que vous pouvez enlever votre conner? J'aimerais bien voir votre visage. Ça, c'était inattendu. La dernière fois que Loon avait fait face à cette demande, c'était il y a près de 20 ans. Une jeune fille, de même manière, dans un bar, loin au sous-sol, puis ils étaient repartis ensemble. Elle n'avait d'abord pas prêté attention à la combinaison anti-rayonnement, en plus du conner. Plus tard, la famille s'en était ressentie. Et qu'est-ce que j'ai donc de si spécial? Vous êtes le Vitiyinkan. Devant le regard interrogateur de Loon, Gus haussa les épaules. Expliquez-moi. Vitiyin, le destin, dans une vieille langue d'Asie d'il y a plusieurs siècles. Peut-être que l'expression Vitiyin Sakalan vous parle plus? Ah oui, bien sûr, la roue du destin. Tous les enfants ont joué à ce jeu. La vie et la mort, la lumière et l'obscurité, la fortune et le fardeau, la montagne et le chemin, le soleil et la lune, la connaissance et l'ignorance, l'éternité et le néant, le vent et la mer, le fer et le feu. Je m'en souviens encore. C'est bien, et vous faites la même erreur que tout le monde. Vous citez 9 groupes de 2, alors que toute la base de cette croyance repose sur le nombre 3. La Trimurti, Vitiyinkan, Vitiyinkai, Vitiyinsakalam. 3 et non 2? Oui, vous avez cité 9 groupes de 2. En réalité, il y a 6 groupes de 3. Par exemple, l'éternité, le chemin et la lumière. Il n'y a pas d'opposition, que des groupes qui s'associent et qui sont différents. Et Vitiyinkai, c'est quoi? La main du destin. Dans toute l'iconographie, c'est l'une des rares qui n'est pas disparue. La main qui tourne la roue du destin. La roue du destin. Vitiyin Sakalan. Et moi, je suis quoi là-dedans? Vitiyinkan, l'œil du destin. Le témoin. Vous avez été témoin de ce qui pourrait détruire l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui. Sur Los Angeles. Et en ce moment, vous êtes le témoin de ce qui pourrait détruire le monde virtuel, l'autre univers que les humains ont créé, tout au moins le détruire tel qu'il existe aujourd'hui. Le regard interrogateur de Loon à Gus avait peut-être été accompagné d'un froncement de sourcils imperceptible. Gus se sentit obligé de se justifier. Tu sais comment c'est? On est en contact, on échange des informations. Ça veut dire que vous savez ce qui est en train de se passer? Pour ce que vous appelez Koldish? Bien sûr, tu imagines que ce qu'il y a à l'intérieur de Dialdon ne fuite pas de l'Iamas? Donc vous êtes au courant mais vous ne faites rien. Votre ami Gus n'en sait pas suffisamment pour faire quoi que ce soit. Et moi, ma foi, puisque je suis heureux que la main du destin ait fait tourner la roue du destin sur connaissance, feu et fardeau, la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Dans le monde physique, parce qu'aussi dans le monde virtuel qu'elle s'est inventée. 40 planètes sont en quarantaine, vraisemblablement frappé par des heures d'Eust. Mais tout le monde s'en moque sur les centaines de planètes que l'humanité a souillées. Par contre, faire tomber les villes virtuelles. Tout est dans les villes virtuelles. Le commerce, les administrations, le lien social. Tous ceux qui partent coloniser de nouvelles planètes le feraient-ils encore s'ils savaient fouler un pont de cendres? Quand l'humanité ne sera plus une, mais parcellaire, sur des planètes isolées les unes des autres, peut-être qu'enfin l'homme respectera le grand équilibre. J'ai la chance, comme un de mes ancêtres il y a 230 ans, de savoir et de voir de mes yeux les choses se modifier. Lui avait la connaissance et était sur l'ancienne Terre au moment de la grande destruction. Cela n'a malheureusement pas donné un basculement suffisant pour rétablir le grand équilibre. Mais peut-être qu'aujourd'hui nous y sommes. Ce que vous dites est ignoble, les conséquences sont incommensurables. Peut-être, tout comme les dégâts sont incommensurables de ce qu'a fait l'humanité jusque-là. Je vous laisse, je vous ai vu, cela me suffit, dans 230, ou 250 ou 300 ans, quand l'humanité aura repris la place qui est la sienne dans l'univers, mes descendants pourront dire « J'ai eu un aïeul qui a vu le Viti Incan ». Clem alors se lève et dit à Gus, au moment de partir, « Fais ce que te dicte ta conscience, mais souviens-toi que c'est inutile, Lawson nous l'a enseigné. » « C'est quoi cette histoire de conscience? C'est qui ce Lawson ?» Gus se levait. « Moi aussi je dois partir, nous devons tous disparaître. Attends un petit peu avant de sauver l'humanité, ça nous laissera le temps de disparaître pour de bon. Sauver l'humanité. » « Oui, c'est ce que me dicte ma conscience. » De t'aider à essayer de le faire. Quant à Lawson, tu demanderas à ta mathématicienne. T'es sacrément bien informé. Comme toujours. Et alors je fais comment pour sauver l'humanité? Tu te fais aider par un Philippin, il y a 270 ans, qui a jeté un bout de chiffon à la mer. Si jamais j'en trouve plus, je me débrouillerai pour te faire parvenir l'information. Adieu, et cette fois-ci pour toujours. Loon se repaya un excab pour aller le plus vite possible à Dialden et faire irruption dans la salle où Mérès le regarda de travers en lui disant « Tu ne devais pas te reposer deux jours ?»« Si, si, mais il faut que je parle à Carmen. » Puis, enfermé dans le bocal, « Tu peux faire une petite recherche pour moi ?»« T'es gonflé, toi. Je sais pas si t'as remarqué, c'est pas vraiment le moment. »« Écoute, Mérès, de temps en temps, il faut faire une petite pause. Ça te changera les idées. » »« Décidément, toi. Bon, qu'est-ce que tu cherches ?» Un Philippin qui a jeté un chiffon à la mer il y a 270 ans. Tu te fous de moi? Non. Pour l'instant, on va dire que ça ressemble à une énigme. Je me suis dit que ça t'amuserait. C'est quoi un Philippin? C'est une planète? Ça m'étonnerait. Je dirais plutôt un pays. On parle d'il y a 270 ans, juste au moment du démarrage de l'expansion spatiale. Bon, ok. Je te cherche ça. Vraiment n'importe quoi. Tu sais où est Nathalie? Elle est partie faire sa pause. C'est donc à la cafétéria que Loon attaqua sa deuxième énigme. Ça te dit quelque chose, Lawson? Oh bah oui, la théorie de Lawson. J'en venais pas au briefing ce matin, c'est même Mérès qui nous en a parlé. Mais t'étais pas là. Pourquoi tu me parles de ça? Moi aussi j'en ai entendu parler. Tu peux m'expliquer? Oui, bah, si tu veux je te le raconte à la Seban. C'est bizarre à ce point-là. Ouah, exagère pas. C'est de la philosophie, du quantique... et un peu mon domaine de la statistique. Eh ben, ça promet. Enfin, vas-y pour une histoire à la Seban. Peut-être que ça me permettra de comprendre. Après tout, son histoire de soupe bouillante dans une assiette qui reste froide, c'était pas si bête. Ok. Alors, la théorie de Lawson, ça part du quantique. Mais voilà, c'est toujours une image. Hein. C'est une armure, faite de plein de petites billes, comme un réseau, pour te protéger de ce qu'il y a à l'extérieur. Le mal, le chaos. Le mal, c'est quantique, ça? Non, mais le chaos, plus ou moins. Ah, écoute, je te le fais avec une histoire à la Seban. Ok, continue. Donc tu vois, tu as un réseau de billes, et puis à un moment, tu en enlèves une. Et l'objet de la théorie de Lawson, c'est de réfléchir à ce que cela implique. Ce qu'il va arriver, à terme. On parle de quantique, donc on parle de statistiques, et potentiellement, le temps n'a pas d'importance. Ok. Beaucoup de gens font l'erreur de se concentrer sur les scénarios de ce qui va arriver à l'armure. Il y a un trou, comment, par exemple, est-ce que le trou va se boucher? Ou pas? Du point de vue quantique, on peut imaginer que les structures se réorganisent. Ce n'est plus la même structure, mais il n'y a plus vraiment de trou. Le réseau est simplement un tout petit peu plus lâche. Ou, un peu comme de la génération spontanée, chaque bille descend un tout petit peu son poids pour générer de la matière, de façon à créer une nouvelle bille à l'endroit où il y avait le trou. Il n'y a de nouveau plus de trou, mais chaque bille est un petit peu plus légère. Ou alors, simplement, il reste un trou. Dans tous les cas, le scénario implique soit qu'il reste un trou, soit que le réseau soit plus lâche, plus fragile, soit que les billes soient plus légères. Donc, le réseau plus fragile. Tu me suis jusque-là? Jusque-là, ça va. La vraie analyse statistique, elle se fait sur les scénarios qui prennent en compte de quoi on parle. C'est une armure qui te protège du chaos extérieur. Si l'on représente ce chaos comme des billes, peut-être un petit peu plus grosses ou de même taille, qui viennent frapper l'armure pour essayer de la traverser, il y a les probabilités pour que, si jamais il y a un trou, à un moment, une bille puisse passer, en fonction de sa taille, en fonction de sa trajectoire, et de la chance qu'elle a de tomber exactement dans le trou. Ou alors qu'une bille, peut-être un petit peu plus puissante que les autres, arrive à fragiliser le réseau, qui est un petit peu moins dense. Qu'une très grosse bille, en frappant une bille un petit peu plus légère, réussisse à la dégager du réseau et à l'entraîner à l'intérieur. Il y a évidemment aussi tout un tas de scénarios où il ne se passe rien. Dans le premier cas, si jamais il y a un trou, la bille tape à côté, ou elle est trop grosse, ou elle tape dans le trou, elle est petite, mais sa trajectoire fait qu'elle rebondit vers l'extérieur. Tu me suis toujours ?
Oui.
Jusque-là, on a eu le quantique et puis les statistiques. C'est maintenant que vient la psychologie. Parce que la théorie de Lawson, évidemment, c'est une théorie humaine. C'est de la psychologie. Et Lawson dit que la psychologie de l'homme, ça va être de toujours chercher le mauvais côté, ce qui va mal se passer. Et donc, que l'on va échafauder de plus en plus de scénarios où les choses se passent mal, et où donc le chaos peut traverser l'armure. Et la théorie de Lawson dit simplement que, aussi peu probable que soient ces scénarios, vu qu'il va y en avoir une infinité, car ce sont les seuls que les hommes vont chercher, au bout d'un moment, dans l'équilibre, forcément, la somme de toutes ces probabilités pour que les choses se passent mal va faire en sorte que les choses se passent mal. C'est la théorie de Lawson. À partir du moment où tu touches à quelque chose de structurant, quel que soit le temps que ça prenne, le chaos finira par l'emporter. Ce que Mérès a appelé ce matin la fin de l'humanité. T'es sûr que ça va ? T'es tout pâle. Oui, excuse-moi, c'est la fatigue. Je vais manger un peu, ça va aller mieux. Pour la première fois de sa vie, Loon prenait de la hauteur. Une hauteur tellement grande qu'il embrassait l'humanité entière de son regard. Même sur cette histoire d'esclaves transformés en bombes biologiques, il y repensait à cause de Gus. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences que cela pouvait avoir à l'échelle, on va dire, au-delà de la ville, au-delà de son enquête de simple flic. Là, il se rendait compte effectivement que ce que l'autre illuminé lui avait raconté, et sa dernière phrase, sur la fin de l'humanité, était peut-être entre ses mains. En tout cas que grâce à Gus, il pouvait ne pas se contenter d'être juste l'œil du destin, celui qui observe. Il pouvait faire quelque chose. Et plutôt que d'attendre, bêtement, que Carmen puisse essayer de trouver la solution à son énigme, car lui avait beau la retourner dans sa tête, dans tous les sens, il ne comprenait pas de quoi il retournait, il se remit à sa tâche, à son bureau, entre Seban et Alexia, pour continuer la traque, continuer à passer toutes les villes virtuelles au peigne fin. Pour la première fois, l'IMAS ne se contentait pas des 189 villes virtuelles principales, celles qui avaient plus d'un million d'habitants, plus d'un million de boutiques, de galeries. Non, là, on allait toutes les passer au peigne fin. Car il était sûr que le Koldish allait certainement se faire la main sur des endroits où il avait toutes les chances de passer au travers. Pourquoi viser une grande ville virtuelle? Contrairement, par exemple, au Baclone, qui ne pouvait se déployer que dans la ville qui correspondait à l'endroit où avait été piraté le profil et où la faille de sécurité n'avait pas été corrigée suffisamment vite, là, on avait affaire à une sorte de pirate qui pouvait choisir une cible, n'importe laquelle, et aller jouer sur place. Alors, exceptionnellement, l'IAMAS avait décidé de passer des accords avec les groupes de villes virtuelles de plus petite taille pour avoir le droit d'enquêter. Les conséquences de ce qu'ils avaient découvert étaient tellement énormes que certainement c'est le monde entier qui avait les yeux tournés vers Dialden et tous les autres centres un peu critiques de l'IAMAS. Gus, évidemment, était au courant. C'est sans doute lui qui avait tenu Clem au courant. Mais le grand public, jusqu'alors, ignorait le drame qui se jouait dans les coulisses de ses villes virtuelles préférées. On commençait même à réfléchir à ce que l'on pourrait faire politiquement, et les débats éthiques étaient vifs. Mérès, qui était dedans et n'était pas censé en parler, partageait néanmoins cela avec son équipe. Après tout, si dans un premier temps, la menace était circonscrite uniquement à certaines villes virtuelles, on pouvait très bien laisser les banques ou les assurances payer les dégâts et passer la chose sous le tapis. Personne ne serait au courant, on indemniserait les victimes et on éviterait la panique. Reculer pour mieux sauter, disaient d'autres. Ou une astuce pour cacher votre incapacité à mettre la main sur le pirate, ou tout au moins sur le profil qu'il aura créé. Puis l'espoir revint, en tout cas pour Loon, qui sur un signe de tête avait rejoint Carmen. Ta source n'est peut-être pas complètement farfelue.
Oui, bah si je te disais qui c'est, je m'en doutais un peu. Au début, tu vois, je pensais plutôt à un Philippin qui avait jeté une bouteille à la mer, avec un message qu'on aurait trouvé aujourd'hui. Et puis, une idée comme ça. J'ai regardé comment on disait chiffon en Philippin, la langue de l'époque. Et alors, ça se dit Angbasaan.
Mérès était tendu. Bon alors, en gros, Loon a gardé des contacts dont il préfère ne rien nous dire, et quelque chose a l'air d'être à peu près concret. Il y a 270 ans, on tombe sur une ville qui s'appelle Angebashan, au milieu de l'eau, donc jetée sur la mer, si on veut bien. Pourquoi en Philippin? Oui, c'est pas très très loin des Philippines, un pays de l'époque. Et c'est effectivement un grand centre mafieux, très connu pour tout ce qui est cybercrime, en effet. Et après?
Bah, je creuse, mais et je suis déjà bien content d'avoir trouvé tout ça, et puis la source de Loon, ça n'a pas donné beaucoup plus d'informations pour l'instant.
Le regard de Carmen était implorant. Elle avait été piquée au vif. Elle avait trouvé quelque chose, elle voulait tirer le fil de la pelote, seulement, en fait de pelote, elle n'avait qu'un pauvre brin de laine de rien du tout. Évidemment, Loon ne pouvait pas leur parler de Clem, ni de Leur et Dust, ni de cette coïncidence bizarre. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un hasard si on l'avait renvoyé rechercher sur la Terre, exactement au moment où Ernest Arendish avait écrit le cycle de Yom. Quel rapport entre les deux, à part dans l'esprit d'un illuminé, à moitié mystique, un éco-terroriste qui essayait de faire le lien entre les Eredust, s'ils existaient vraiment, en tout cas ce qui avait pu être écrit dans le cycle de Yom, et qui détruisait l'homme sur certaines planètes, et ce qui arrivait aujourd'hui, dans le monde virtuel, qui risquait potentiellement de le détruire. À l'époque, les villes virtuelles n'existaient pas. On en était à peine à faire des jeux en immersion plus ou moins virtuelle. On commençait tout doucement, grâce à la technologie Tran, à coloniser des planètes lointaines. Un type avait écrit un livre qui avait été jugé dangereux par tout le monde, qu'on avait tenté de faire disparaître. Mais bon, quel rapport avec une espèce de virus? Ou en tout cas, quelqu'un qui avait trouvé 270 ans plus tard à pirater les profils que l'on utilisait dans les villes virtuelles. Cela semblait ne pas avoir de sens. La sentence tomba, Carmen avait certainement mieux à faire. On abandonna la piste, même si, dans l'esprit de deux personnes, elle continuait à tourner en boucle, et tout le monde retourna au travail pour repasser au tamis toutes les villes virtuelles possibles, afin de trouver la possible première implémentation du Coldish. La mort dans l'âme, Loon reprit donc le travail, peu intéressant, qui le ramenait presque 20 ans en arrière, quand, au début de son boulot de flic, on l'avait envoyé dans la rue pour potentiellement tomber sur un flagrant délit. Du temps perdu. Deux jours passèrent, comme dans un mauvais rêve. Dormir sur une paillasse, croiser dans les couloirs, d'autres zombies, les yeux bouffis de sommeil. Le cœur n'y était plus, et Mérès le voyait bien. Il renvoyait Loon chez lui. Tu devais te reposer 2 jours. Tu t'es reposé à peine 1 journée, va te reposer 2 jours. Quand tu reviendras, tu auras les idées un petit peu plus claires. Par superstition peut-être, Loon attendit le milieu d'après-midi pour rentrer exactement à la même heure et se retrouver au même endroit sur le quai la première fois qu'il avait vu Gus. Mais rien. Arrivé chez lui, il se demanda comment est-ce que Gus allait pouvoir le contacter si jamais il trouvait quelque chose. Peu importe, il était tellement fatigué. Il se sentait bien à repartir pour rester au lit 24 heures comme la dernière fois. Il avait évidemment repris un X-Cab pour revenir, puisqu'il n'avait pas sa combinaison à l'aller. Même si c'était relativement court, ça faisait plusieurs fois qu'il faisait des trajets entre le véhicule et sa destination, ou le contraire, et qu'il prenait donc du rayonnement. Il le sentait. Les yeux lui piquaient, il avait les mains légèrement gonflées. Il y a trop longtemps qu'il s'était complètement caché des rayonnements. Maintenant, le simple fait de traverser la rue lui donnait des effets secondaires. Finalement, il était tellement bien à Dialden. Quitte à se reposer 24 heures ou 48 heures, il aurait mieux fait d'y rester. Comme ça, en plus, il aurait été sur place, au cas où. Au cas où quoi? En imaginant qu'il n'y ait un quelconque lien avec la fameuse ville. On avait juste le nom d'une ville, il y a 270 ans. Qu'est-ce qu'on pouvait bien en faire? Qui avait bien pu mettre Gus sur la piste sans directement lui donner le nom de la ville? Ça aurait été quand même plus simple. Et qui avait pu récupérer l'ordinateur sur lequel les tests avaient été faits pour le Koldish et l'envoyer à Liamas? Tout ça était quand même très bizarre. Ce fut sans doute une nuit agitée et pleine de cauchemars. Heureusement, Loon ne s'en souvenait pas. Il se souvenait du dernier, horrible. Il retournait à Liamas. Il le vivait tellement fort, il le souhaitait tellement fort. Il avait presque du mal à savoir si c'était un rêve ou la réalité. Un cauchemar, plutôt. Quand il rentrait dans la salle, la première chose qu'il vit, c'est Gus dans le bocal de Carmen. Puis, tournant le regard, il croisa celui de Clem à la place de Mérès. Puis Mérès, qui semblait comme prisonnier à l'intérieur de la centrifugeuse. Il se retourna alors pour regarder le tableau blanc, comme il faisait à chaque fois, et là, au feutre rouge, était écrit « Eredust ». Une horrible litanie remplissait la pièce.
« Il manque une bille, c'est le chaos. Loon, qu'as-tu fait de la bille? C'est la fin de l'humanité, c'est ta faute. »
C'est un coup de sonnette qui réveilla Loon à ce moment-là. Quel que soit l'important, qu'il soit béni. Grâce à lui, l'horrible cauchemar s'était terminé. La lumière lui indiqua qu'il n'avait pas dû dormir bien longtemps. C'était la nuit. Il se précipita. Évidemment, personne. Par contre, posé sur son paillasson, un petit morceau de papier plié en deux. Cette fois-ci, il prit le temps, en plus de son conner, évidemment, de récupérer sa combinaison. Puis attrapa un taxi et fonça à Dialden. Jusque-là, il n'avait été confronté qu'à sa propre routine, sa propre vie entre parenthèses, dans les couloirs de Dialden. Là, pour la première fois depuis le début de la crise, il se rendait compte. Une lampe à la main, il parcourait les couloirs, braquant la lumière sur les visages, en essayant de ne réveiller personne, pour retrouver Carmen.
« Hein, quoi ? Carmen, Carmen, j'ai une autre piste. Il faut creuser, il faut creuser. »«
Ouais, 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 quelle heure il est ?»«
Il est l'heure de creuser. »
Ok, il dit quoi, Mérès ?»«
Ouais, Mérès, je sais pas, il est peut-être encore dans la salle. »
Juste 5 minutes. Un petit break pour te changer les idées. Loon, je me suis couché il y a moins d'une heure.
J'ai une solution là, j'ai quelque chose.
Oh là, toi alors.
Mérès n'était pas dans la salle. Il devait lui-même dormir, quelque part vautré dans un couloir. Après quelques minutes de recherche, Loon se retrouva de nouveau à les parcourir, lampe à la main, pour essayer de l'identifier et de le ramener voir ce que Carmen avait trouvé. La réaction de Mérès aurait pu être immédiate, mais Loon, tiraillé par sa conscience, devait lui dire ce qu'il savait ou en tout cas ce qu'il soupçonnait. Il arrêta donc son geste d'enthousiasme et lui dit « Avant de réorganiser les recherches, je voudrais te parler. » Carmen les laissa seuls dans la salle.
« Tu veux me parler de ta source ?»«
Oui et non. En fait, je voudrais te parler des fuites. »«
Les fuites.
Il y a des gens qui savent tout ce qu'on fait. » Je ne sais pas s'ils ont un lien avec le pirate, celui qui a créé le Koldish et qui est peut-être en train d'essayer de l'utiliser quelque part. Je ne sais pas si c'est un complot des éco-terroristes. Je ne sais pas si celui qui fait ça est juste un brigand comme les autres, qui veut se faire de l'argent, ou s'il y a réellement un complot pour mettre en l'air tous les mondes virtuels et s'attaquer à l'humanité. Mais en tout cas, peut-être qu'il faudrait garder la recherche que l'on va faire en circuit clos juste sur quelques personnes. Peut-être pas uniquement notre équipe, mais en tout cas que ça ne sorte pas de Dialden. Et peut-être si on pouvait faire ça vraiment limité.
T'es en train de me dire qu'il y a des fuites à Liamas ?
Oui, et pas seulement à Liamas. Je parle de Dialden. Quand j'ai rencontré ma source, visiblement, elle savait déjà certaines choses qui se passaient ici. Et même au sein de notre équipe.
Qu'est-ce que tu entends par au sein de notre équipe ? Eh bien, à un moment, on va parler de la mathématicienne avec qui je travaillais. C'est grave, ça. Tu sais qu'à un moment, il va falloir que tu rendes des comptes. Je préférerais éviter. On n'en est peut-être pas encore là. Il faut agir, on a les moyens de le faire. Évitons que ça ne se sache à l'extérieur. Ok. La fin justifie les moyens. On va dire dans un premier temps, juste notre équipe. Comme ça, tu auras confiance. Moi aussi. Et si jamais on n'y arrive pas, on verra à élargir un peu. Trouve les autres. 10 minutes après, tout le monde était là. Certains mal rasés, mal coiffés, ne sentant pas forcément très bons, mais les yeux grands ouverts et le cerveau tournant à 100%. Carmen expliqua. Voilà, ça a été très vite. On savait à peu près où et quand chercher, grâce à l'histoire d'Angebashan. Alors là, c'était facile. Sur le papier, il y avait écrit « Peter Hunchley ». J'ai cru que c'était le nom de quelqu'un. En réalité, non. C'est deux noms différents, Peter et Hunchley. Hunchley, c'est un gang de la fameuse ville Angebashan, spécialisé dans tout ce qui est codage, informatique, légal ou criminel. Quant à Peter, j'ai trouvé sa trace en lien avec Hunchley parce qu'il y a eu un procès quelques années plus tard. Un gars qui avait émigré vers les étoiles et qui avait commencé à faire fortune et qui a été assassiné. On soupçonne le clan Hunchley parce qu'il aurait été payé quelques années plus tôt pour développer un programme dont il ne devait pas parler, alors qu'il a plus ou moins transformé ce programme pour pouvoir l'exploiter. Le clan lui a donc fait payer très cher. Il semble que le clan ait fait un assassinat préventif. Il venait de monter une boîte informatique, il avait des projets, ça n'avait pas encore donné grand-chose. Il a fallu creuser un petit peu plus loin. Mais une dizaine d'années plus tard, j'ai retrouvé la trace. Et c'est bien notre Koldish. Ça s'appelle Algorine. C'est une intelligence artificielle qui travaillait sur les prémices des mondes virtuels de l'époque. Un jeu basé sur une technologie qui s'appelait Virzem. Une intelligence artificielle qui était capable d'aller corriger certaines erreurs dans les algorithmes sous-jacents sans que ça impacte les couches supérieures de rendu pour les joueurs qui étaient en immersion à l'intérieur du jeu. Comment est-ce que c'est arrivé là, 260 ans après? Aucune idée. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'est resté aucune trace de ça 30 ans plus tard, au moment de la grande destruction. Tout était géré par le clan Hunchley, dont le fameux Algorine, depuis Angebashan. Et au moment de la grande destruction, Angebashan a été rayé de la carte. Derrière, je n'ai trouvé aucune trace, ni d'Algorine, ni du clan Hunchley, comme si tout avait été rasé. Mais il y a forcément eu des copies, des recherches, des fuites, je sais pas. En tout cas, quelqu'un a retrouvé ça. Et nous, si jamais on fouille, en sachant exactement d'où ça vient, l'objectif, c'est peut-être de mettre la main sur un indice, un morceau de code, qui nous permettrait de reconstituer Algorine. On serait alors en mesure de faire exactement ce que le type qu'on cherche a fait pendant 2 ans, et en analysant le processus pas à pas, on pourrait trouver la faille. Mérès, là Carmen avait un peu baissé les yeux. Mérès considère qu'il vaut mieux laisser les autres continuer la traque, et uniquement nous concentrer sur ça. Donc on a la période d'il y a 260 à 230 ans. On sait à peu près où est-ce qu'on cherche, dans ce qui était l'ex-Angebashan, quelque chose qui s'appelle Algorine, ou un service qui aurait été monté par un clan Hunchley pour permettre de corriger les bugs sans nuire à l'expérience utilisateur. Et ils cherchèrent. Des jours entiers. D'abord seuls, puis quelques salles d'opération, juste autour d'eux. Puis de plus en plus, et bientôt, c'est la moitié de D'Alden qui effectuait ses recherches, pendant que les autres, sans savoir ce qu'ils se tramaient, continuaient à ratisser les villes virtuelles. Tu trouves pas bizarre qu'on l'ait toujours pas trouvé? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec notre puissance de frappe, on devrait déjà avoir au moins un indice, ou trouver quelque chose. Tu sais, les villes virtuelles, il y en a beaucoup, hein? Déjà les 189 plus grandes, qui normalement sont sous contrat avec nous, ça a été compliqué de toutes les visiter une par une, et puis il y a toutes les autres. Tous les jours, ils se créent des villes virtuelles et ils s'en détruisent. Mérès a raison, celui qui fait ça, il est pas fou. Il va pas s'attaquer à Ubriel ou à New Centaur. Il va aller chercher un petit truc dans un coin où la sécurité n'est pas top, où tout le monde s'en fout un peu, et il va pas commencer par braquer une banque, il va commencer par voler à l'étalage. Enfin c'est toi le flic, mets-toi à sa place. Ouais. T'as raison, Nathalie, c'est pas des stats, c'est du bon sens. Non, tu vois, les stats, c'est ce qui me donne de l'espoir. Même si le truc, il y a 260 ans, est vraiment révolutionnaire, statistiquement, C'est impossible qu'il ne laisse réellement aucune trace, jamais, pendant sa manipulation. Si jamais on met la main sur Algorine, on pourra repérer ses traces, et donc on pourra le repérer dans les villes virtuelles. Espérons. Et alors, comment t'as trouvé ? Bah, puisque c'est un procès qui nous avait porté chance, j'ai cherché, dans la même période, d'autres procès contre le clan Inchley. Il y en a eu un, par des Indiens. Ils ont buté un ambassadeur. Je me suis demandé ce que les Indiens venaient faire dans cette histoire. Et alors ? Et alors, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. En Russie. Attends, il y a 3 secondes, on était en Inde. En fait, les Russes ont piraté des documents chinois dans lesquels ils faisaient état de l'espionnage qu'ils menaient en Inde. Ok, passe-nous les détails ou les histoires à la Seban. Va au fait. L'Inde était au courant, pour Algorine. C'est pour ça qu'Henchley a buté un de leurs ambassadeurs. Ils les espionnaient. Ils avaient même réussi à récupérer un bout de code que j'ai retrouvé dans les documents russes parce que les Chinois... Ça va, ça va. Bon, alors, on va y arriver ? Bah oui. On a l'outil, on a Algorine en fait. Enfin, peut-être pas complet, mais on a la base de ce qui a permis de traverser les couches. Ouais, bon. Ok. Et comment on avance ? Eh bien, on demande à notre petit génie de recréer un Koldish. Attends, dans l'ordinateur qu'on a reçu, ça montre qu'il lui a fallu 2 ans pour le faire, en espérant avoir le même outil que lui. Moi, je suis sûr qu'il a récupéré la même chose. On n'a rien trouvé d'autre. On a juste cette base-là. Mais on n'a pas 2 ans. On n'a pas besoin. On a tous ses résultats. Il a fait des recherches pendant 2 ans. On a environ 200 tests. On a tout son arbre. On l'a étudié. On sait exactement où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, quels sont les cul-de-sac, où est-ce qu'il faut passer. Je suis sûr que Seban, en quelques jours, arrivera à nous créer le Koldish exactement comme l'autre il l'a dans les mains. Seban, qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis pour, hein.
Non, mais te demande pas si t'es pour ou pas. Est-ce que tu penses pouvoir faire ça rapidement ?
Je m'y mets tout de suite.
Je comprends rien à ton histoire. Laisse tomber la soupe. Explique. Bah, en gros, effectivement, il ne touche pas à la partie Acton. Par contre, pour bidouiller la partie Actul, il est obligé de repasser par en dessous. Il laisse des traces au niveau de l'Aidon, la base. C'est pour ça qu'il peut pas pirater un profil qui existe. Il a bidouillé un profil qu'il avait lui-même créé. Bon, ok. Et donc, la faille, c'est bon, on l'a ?
On l'a.
Il laisse une trace au niveau de l'Aidon. On peut chercher ça et on le repérera sans problème. C'est la dépression post-enquête, ton problème ? Très drôle. Non, c'est les statistiques. Et c'est pour ça que je t'en parle à toi. Ouais, enfin, quand même. Jusque-là, on n'avait pas pu bénéficier de ton côté rabat-joie. Dans l'équipe, ça nous fait un peu drôle, hein ? Je suis désolé. Néanmoins, je voudrais avoir ton avis. Tu n'as pas l'impression qu'on l'a trouvé un peu vite ? Bah, à partir du moment où on savait quoi chercher, la petite modification dans l'Aidon, c'était plus facile. Au lieu de s'amuser à passer toutes les villes virtuelles au tamis, on développe un détecteur de cette fameuse anomalie, on l'envoie à toutes les villes virtuelles, ils font passer dessous tous les visiteurs, et crac, nous on n'a plus qu'à attendre. Ouais, pour ça je suis d'accord. Et puis après, le coup de la centrifugeuse, là-dessus on est très fort, ok. Maintenant, regarde le bien et regarde le fameux arbre des tests qu'on a récupéré sur le fameux ordi, les tests qu'il a fait pendant 2 ans. Tu trouves pas bizarre qu'on ait retrouvé une espèce de copie, pas forcément hyper efficace en termes de piratage, qui est assez loin finalement de l'aboutissement de la branche principale ? J'ai du mal à te suivre. Bah, c'est pourtant simple. Tu développes un virus, tu lui enlèves tous les défauts, tu l'améliores au fur et à mesure. Le moment où tu te lances pour tester, tu testes la dernière version, tu testes pas une version intermédiaire. Là, ce qu'on a trouvé, c'est une version intermédiaire. Tu sous-entends qu'il nous a senti venir, qu'il nous a envoyé un appât, une sorte de leurre, une diversion. Statistiquement, t'en penses quoi ? C'est pas la version la plus aboutie, elle est à moitié bancale, il a juste fait de la fauche, un peu, et depuis, rien, on n'en a pas trouvé un seul autre. Bon, ok. Statistiquement, Loon, je te suis. Seulement, il y a une faille dans ton raisonnement. Ce qui nous a permis de le trouver, c'est la trace qu'il laisse en modifiant l'Aidon. Et cette trace-là, elle est tout du long de ta fameuse branche. La dernière version la plus aboutie, elle l'a encore, cette trace. Mais c'est bien ce que je dis. Du coup, on aurait dû la trouver. Or, on n'en trouve pas. Comme s'il n'avait réellement injecté dans les villes virtuelles qu'une version bancale et inaboutie. Tu as raison, ça mérite réflexion. Mais le résultat est le même. ce système, cette faille, que l'on peut détecter. Visiblement, c'est un truc de base. Il pourra jamais faire son. C'est pas comme si tu pouvais penser qu'il est en train de développer une version qui n'aurait pas ça. Sans ça, il ne peut pas créer son coldiche. Alors quoi? Justement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il continue à chercher quelque chose. Et dans une direction qu'on n'a pas encore repérée. C'est ça qui m'inquiète. Faut que j'en parle à Mérès. Ah bien justement, tiens, il cherchait. L'ambiance était lourde et Loon comprit tout de suite qu'il se passait quelque chose quand il rentra dans la salle. Mérès lui dit « Je suis désolé, viens, on a rendez-vous. » Les autres évitèrent son regard. Silencieux, Loon suivit Mérès vers les ascenseurs qui menaient au noyau. Les lumières et la configuration de la grande salle ne lui laissaient aucun doute sur ce qui allait se passer. Quelque chose comme un procès. 9 personnes en demi-cercle, une chaise au centre, eux dans la pénombre, lui en pleine lumière. Lui, car bien sûr, personne n'a eu besoin de lui dire où est-ce qu'il fallait qu'il s'assoie. Mérès rejoint André Simitel, le patron du centre de recrutement, et une autre personne portant l'uniforme de l'IAMAS, dont le nom échappait à Loon, mais dont il avait déjà vu les photos et savait donc qu'il s'agissait d'un ponte. Celui qui prit la parole devait être dans le groupe du milieu. Loon distinguait vaguement des uniformes militaires. Une voix de basse, posée, mais ironique. Sauver l'humanité est une grande responsabilité, et obtenir les informations pour le faire, aussi. Une sueur froide inondait le dos de Loon. On y est. C'était incroyable comme il avait oublié cette histoire. Ce que Gus lui avait dit, au moment où il s'était quitté, au sous-sol du café Solneradis. Tout se déroulait exactement comme Gus l'avait prévu. On allait l'interroger. Le temps avait passé. Maintenant, il était sans doute libre de raconter ce qu'il voulait. Il n'arriverait jamais à attraper Gus. Quant à Clem, ma foi. Une silhouette qui était assise à gauche se leva et s'approcha de lui. Il vit alors qu'elle portait un masque. Une jeune femme, sans doute, car la voix était féminine. Elle lui tendit une tablette. « Nous allons juste lever un point qui est important pour nous. » Utilisant un stylet, elle écrivit alors, devant lui, mot pour mot, le deuxième alinéa de l'article 22, celui qui avait été rajouté de manière manuscrite dans son contrat à l'article confidentialité, pour lui demander de ne pas non plus divulguer les informations de tout ce qu'il avait pu apprendre avant. Les choses étaient donc claires. Il avait en face les militaires qui avaient sur lui droit de vie ou de mort, et peut-être des pontes politiques venues de toute la galaxie pour savoir comment il avait eu ces informations et décider de son avenir. Devant nous, vous pouvez, vous devez tout dire. Il y eut ensuite quelques mots d'Andrew Semitel et les encouragements de Mérès. Pendant près de 10 ans, sur Enarsemis, il avait craint de se retrouver dans cette situation, à devoir s'expliquer sur les informations qui lui permettaient de réussir aussi bien ses enquêtes, et donc de dévoiler sa source et de mettre Gus en danger. Mais là, les choses étaient différentes. D'abord, Gus lui avait pratiquement donné l'autorisation. Et puis, il venait de sauver l'humanité. Ses interlocuteurs en face l'avaient pratiquement admis. C'est donc presque avec soulagement qu'il se mit à table, comme on disait dans son jargon. Et puisqu'on parlait de Gus, il lui fallait bien commencer par cette époque, il y a plus de 15 ans, quand il avait franchi la ligne rouge. C'était important pour lui de commencer par cette période-là, où il pouvait expliquer qu'il y avait réellement échange d'informations. Il insistait sur ce point, car dernièrement, dans le dossier Coldish, il n'y avait pas eu échange d'informations. Il n'avait rien fait de mal, il avait respecté son serment. Aucune des informations en sa possession n'était sortie, en tout cas elle n'était pas sortie par lui. Il avait découvert qu'elle sortait d'autres manières. Et comprenait, dès lors, qu'on le soupçonnait, même si c'est lui qui avait remonté l'information à Mérès. Évidemment, il était conscient que c'était sa parole contre la suspicion générale. Il espérait que Mérès le défende. Sa bonne foi, son honnêteté, ses 20 ans de service, tout cela plaidait en sa faveur. Mais, effectivement, il y a 15 ans, dans ses premiers échanges avec Gus, il avait bien violé le secret professionnel et livré des informations confidentielles. Sa dernière chance. Plaider son honnêteté en mettant tout sur la table, en racontant tout, dans les détails, y compris tout ce qu'il aurait pu considérer lui-même il y a encore quelque temps comme de pures inepties, l'histoire du cycle de Yom, qui maintenant prenait une dimension différente, avec potentiellement des implications énormes. Espérant sauver sa peau sur cet épisode, il termina par celui-là. Après avoir raconté ses échanges avec Gus, il y a 15 ans, il raconta l'épisode du Solneradis, puis le petit mot trouvé sur le pas de sa porte. C'est alors presque pour contextualiser qu'il raconte à Los Angeles. Los Angeles et le Red Dust. Les échanges, d'abord avec Gus, puis avec celui qu'il ne savait pas être encore, le fameux Clem, qui semblait intéresser tout particulièrement les militaires. Malheureusement, il ne pouvait pas leur dire grand-chose. Retrouvant la sérénité du condamné à mort qui sait qu'il n'a plus rien à perdre, il s'étonnait de la rapidité avec laquelle il savait raconter cette histoire, en masquant certains points, en mentant légèrement sur d'autres, tout cela en gardant une totale cohérence et une totale impression de franchise. Ainsi, il pouvait parler de Gus, en entrant un petit peu dans les détails, de toute façon il ne le retrouverait jamais. Clem, il lâchait tout ce qu'il pouvait. S'il avait pu le charger, il l'aurait fait. Ça ne servait à rien. Visiblement, il le détestait déjà, et il n'en savait pas assez. Par contre, pas un mot sur Denis. Il donnait des détails avec une telle assurance qu'il sourit intérieurement en se disant que s'il avait été enregistré, en réécoutant son interrogatoire, il aurait presque pu se croire lui-même et se dire que Denis n'avait jamais existé. Denis, finalement peut-être le seul ami qu'il avait vraiment eu, qui lui avait peut-être sauvé la vie jusque-là. Denis, dont il ne cita le nom que trois fois. Pour expliquer l'accueil à son arrivée, les instructions au moment de l'évacuation, et un coup de fil malheureux à son assistante quand il avait voulu parler de le Red Dust et qu'il s'était fait jeter comme un malpropre, décidant par la suite de garder sa problématique pour lui et de n'en parler à personne. L'histoire était tellement bien ficelée. Elle mettait tellement en valeur sa bonne foi, son honnêteté, que pouvait-il bien lui arriver? Ici, à Liamas, en présence de Mérès et des autres, on n'allait quand même pas le condamner à mort. Il connaissait pourtant le point d'achoppement, et quand il eut fini, baissant les yeux sur un « voilà », le caillou qu'ils avaient tous dans la chaussure fut jeté dans le cercle de lumière qui l'entourait. « Donc vous n'avez transmis aucune information, et au contraire, vous avez même prévenu M. Mérès qu'il y avait des fuites. » « Exactement. » « Et ce Gus vous a aidé par pure amitié ?»« Oui. » Et je pense qu'il était tout de même un petit peu persuadé que cela ne servirait à rien, ce que Clem lui avait dit, la théorie de Lawson, que l'issue était inéluctable. Notre problème, monsieur Emeridies, c'est que vous ne nous dites pas toute la vérité, et quelles qu'en soient les raisons, de ce fait, il nous sera difficile de vous faire confiance. Une nouvelle voix sortit alors de l'obscurité parmi les trois du milieu. Moi je le crois. Inhumain. L'effort était inhumain et Loon n'y arriva pas. Il ne put s'empêcher de sourire légèrement et dut baisser la tête, espérant que cela cacherait ce sourire. Puis, il releva la tête, car même s'il en avait vu son sourire, de toute façon, il n'avait rien à cacher. Bien sûr qu'il pouvait se réjouir de ce Deus ex machina face à tous, car tous devaient avoir beaucoup plus d'informations que même lui en avait, puisque Denis était parmi eux. Il y eut un rapide conciliabule, à voix basse, entre tous les membres de l'assemblée, puis la femme, qui avait écrit dans son contrat la clause de confidentialité, se leva et lui dit « Nous vous faisons confiance, nous vous croyons. N'oubliez pas l'article 22, vous pouvez disposer. » Soulagé d'être en vie, heureux de sentir sur ses épaules les mains fermes de Mérès qui leur accompagnait au rez-de-chaussée, Loon voyait l'horizon s'éclaircir. Après tout, ne venait-il pas de traverser, sans doute, la pire épreuve de sa vie, et avec brio qui plus est. Les regards inquiets de ses quatre collègues, quand ils rentrèrent dans la salle, lui firent encore plus chaud au cœur. Sans un mot, Mérès s'avança vers l'étagère aux éprouvettes, les vida consciencieusement, chacune dans le bocal correspondant, se retourna et dit « Je paye ma bière !»
Loon, champion de la galaxie.
À ces mots, qui venaient de briser le silence, Mérès se retourna et mit une bille noire dans l'éprouvette.
« C'est injuste. Je réclame un procès équitable. »
Et crac, deuxième bille noire. La tension était telle qu'il fallut plus de 10 minutes pour que les rires cessent, sachant que Seban avait lui-même arrêté quelques minutes avant, ayant mal aux mains d'avoir tapé comme une brute sur son bureau. Nul doute que dans tous les bureaux environnants, tout le monde avait encore levé les yeux au ciel en se disant « Tous des cinglés chez Mérès. » Oui, une famille de cinglés. Loon avait trouvé sa famille. Il était heureux. Et c'était une belle fin pour cette histoire.
Mais t'es complètement malade. Combien tu dis?
27 mètres carrés.
Tu vas passer de 40 mètres carrés à 27 mètres carrés en augmentant ton loyer de 50%?
Alexia, tu peux pas comprendre. T'es une platone. Les autres aussi d'ailleurs, vous êtes tous des platones chez Mérès.
Je vais être à 10 minutes de Dialden. Dès le petit déjeuner, hop! Le week-end, pour un pot de verdure, hop.
Le week-end, mais c'est ton lieu de travail, tu vas pas venir ici le week-end.
Alexia, t'as une famille?
Moi non.
Dès que je veux aller en ville, il faut que je mette ma combinaison.
Vous rendez pas compte à quel point c'est un enfer.
Le dôme, c'est un vrai bonheur. En y restant 5 jours d'affilée pendant la crise, je peux pas t'expliquer.
Quoi, t'as été heureux?
Dormir dans les couloirs sur une paillasse? Faire la queue pour les douches de la salle de sport?
Eh ben ouais. S'il y avait des chambres ici, je sortirais plus jamais de Dielden.
Franchement, je te comprends pas.
Mais réfléchis. Je suis pas comme toi, j'ai pas de famille. Qu'est-ce que je vais avoir comme vie sociale, systématiquement avec le connard et la combinaison?
Je peux même pas aller manger chez vous. Vos appartements sont pas protégés. Et je vais pas vous inviter chez moi, déjà 40 mètres carrés, c'était trop petit.
Et financièrement, tu gagnes pas assez.
Je sais. Ben, je vais taper dans les économies. J'ai encore 15 années à tirer. Après, je pourrais aller ailleurs. En attendant, j'ai cette super opportunité à 300 mètres de l'entrée de Dielden. Je saute dessus.
Bref. Enfin, c'est ta vie, hein.
Alexia, tu comprends pas. Enfile ma combinaison et tu te rendras compte de ce que je vis à chaque fois que je sors à l'extérieur.
Tu parles. T'es tellement gringalet, j'arriverai même pas à rentrer une jambe.
Bon, c'est fini les pipelettes, là?
Allez, en piste.
Loon va pouvoir réellement capturer son premier backlone.
Et moi je dis, ça vaudra bien une bière.
Le silence qui suivit fit que tous les regards se tournèrent vers Seban, qui aurait dû acquiescer bruyamment. Il était livide, et la grimace crispée qui déformait son visage le laissait baver, visiblement depuis déjà quelque temps. Dans un dernier sursaut frénétique sur ses touches, il lâcha. Avant de s'effondrer. Nous étions déjà sur lui, pendant que Mérès enfonçait le bouton d'alarme. « Une ambulance, vite !» Il sortit en courant du bureau, sans doute pour aller chercher les secours encore plus vite. J'avais déjà commencé les massages cardiaques. Carmen, fortement impressionnée par le malaise que son père de cœur venait d'avoir, resta quelques instants démunie. Puis, s'avisant que nous étions déjà 3 à nous occuper de lui, et visiblement plutôt bien, son esprit professionnel prit le dessus et elle se glissa entre nous pour récupérer le vocodeur. Nous savions tous que quand Seban tapait trop vite, et qu'en même temps il utilisait des mots qui n'étaient pas forcément reconnus immédiatement par le dictionnaire, le premier résultat vocal, qui cherchait à garder le rythme de frappe pour transcrire l'émotion, était parfois incompréhensible. Il s'en rendait alors compte lui-même, et pouvait se répéter comme s'il parlait lui-même. Sauf que c'était plus facile. Il y avait un petit bouton sur le vocodeur. Il lui suffisait d'appuyer, et la dernière phrase était répétée, sur un tempo plus long, et après que l'intelligence artificielle eût réellement reconnu les mots. Bouleversée et inquiète de ce que Seban avait pu découvrir, les yeux fixés sur l'ordinateur où défilait du code, Carmen appuya sur le bouton.
Backlog d'un coldish, identité flinguée, duplication infinie, fin de l'humanité.